On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
La tomate.
Et donc, ce sont d'abord les Aztèques qui ont domestiqué cette tomate. Et puis, la tomate débute son voyage quand elle arrive en Espagne et à Naples.
Le gazpacho. 1,5 kg à peu près de tomates, 2-3 cébettes, 2 poivrons rouges que l'on va faire confire et une tête d'ail.
On la réduit, on l'écrabouille, on la met dans les ratatouilles, on la mélange avec des nouilles, on la farcit.
La tomate farcie de ma maman, c'était une tomate farcie faite avec 3 tranches de pain, un reste de pot-au-feu ou un peu de crosse de jambon, tombée de blettes, un peu d'oignon. Et ça faisait une farce qui était soyeuse.
Un sorbet à la tomate?
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Botaniquement, c'est un fruit. Culinairement, c'est un légume. Et médiatiquement, c'est la star indétrônable sur l'étal des primeurs pendant l'été. Évidemment, je veux parler de la tomate. Mais d'où vient donc cette folie pour une plante potagère dont on s'est longtemps méfié en France? Qu'entend-on exactement par variété ancienne? Pourquoi existe-t-il des tomates de couleurs différentes? Et au fait, une tomate jaune a-t-elle un autre goût qu'une tomate rouge? Autrement dit, la couleur est-elle aussi une saveur? On répond à toutes ces questions avec Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert du potager dans la bande dont on va déguster, Xavier. On vous entend pas mal cet été. La tomate fait partie de votre champ de culture, mais aussi de votre champ d'exploration.
Oui, ce sont des formidables ambassadrices du potager, en fait.
Et vous nous avez apporté une panoplie de tomates multicolores. Alors, on va voir que la tomate, elle souffre un peu en ce moment. Mais heureusement que vous avez des voisins, copains, maraîchers bio comme vous, qui ont des tomates. Mais la saison est compliquée.
C'est difficile.
On va voir ça avec vous, sachant que nous avons également une très belle cargaison de tomates qui nous vient de Fabien Dumont, maraîcher bio à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. C'est Terroir d'Avenir qui nous a fait cette petite livraison. Terroir d'Avenir, les fameux commerçants de bouches de la rue du Nil à Paris. Ces tomates, on va les cuisiner avec un chef aux origines méditerranéennes. C'est Sylvain Sandra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nord-africain du côté de votre père, toscan du côté de votre mère. Vous êtes donc forcément concerné par la tomate?
Oui, et lyonnais un petit peu aussi.
Et lyonnais un petit peu, je l'avais oublié, pourtant il est lyonnais comme moi. Oui. Et vous êtes au fourneau de Fleur de Pavé, un super restaurant qui est qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur la scène parisienne. Vous nous en rappelez l'adresse?
Alors c'est 5 rue Paul Lelong dans le deuxième.
Vous êtes ouvert pendant l'été?
On est ouvert tout l'été.
Très bonne nouvelle. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Déborah Dupont et Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Déborah.
J'ai sorti mon moule à tarte tatin rouge tomate, oui, pour une petite tarte.
Une petite tarte, une tatin de tomate.
Une tatin de tomate,
ça
exactement.
Me plaît beaucoup. Pas forcément d'ailleurs avec des tomates fraîches, c'est ça qui est intéressant.
On verra ça tout à l'heure.
Réhabilitons la tomate en conserve. Antoine.
Savez-vous que quand vous prenez des feuilles de tomate et vous les frottez dans vos mains,
quelle odeur !
Il y a cette odeur magnifique et il y a cette odeur qu'on retrouve dans des vins blancs. Un peu, on va dire, déconsidéré le Sauvignon, mais parlons des bons.
Très bien, un mariage d'amour entre le verre et l'assiette. Avec Antoine à la console pour mitonner cette émission d'été, Camille Blanès, Élise Christophe, Nadia Chougui. Retrouvez toutes nos infos pratiques, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de croquer dans la tomate, je vous propose une curiosité niçoise. La soca, si je vous dis soca, c'est...
Du pois chiche.
C'est une danse.
Bravo.
Aussi.
Soca, je pensais pas qu'il allait oser la faire. S'il vous plaît, Sylvain Sandra, définition d'une soca par la danse.
Non, c'est du pois chiche. Et c'est très très bon quand on la mange à Nice, quand elles sont encore cuites dans les fours à bois. C'est vraiment exceptionnel.
Exactement, vous avez quasiment tout dit. C'est une galette de farine de pois chiche grillée au four qu'on trouve encore dans quelques échoppes de Nice. C'est un encas roboratif, une spécialité salée de cuisine de rue. C'est de la street food à la sauce sudiste. Eh bien, figurez-vous que j'ai déniché une soca splendide et assez secrète, curieusement. Oui, car pour la goûter, il faut s'éloigner un peu du centre-ville, du vieux Nice, vous savez. Il faut s'aventurer avenue de la Californie, à Caras. C'est un ancien village de pêcheurs juste à côté de Nice qui a été en fait absorbé par l'urbanisation de Nice-Ouest. Et au 215, il y a une devanture de bois et de crêperie tout à fait modeste. Ça s'appelle la Soca, S-O-2-C-A. C'est l'enseigne de Richard et Bettina Mortier qui pratiquent cette galette populaire depuis 30 ans. et il paraît même qu'elle plaît aux enfants.
Bonjour. Elle est dans le four, elle va sortir, mademoiselle.
Comment tu t'appelles ?
Juliana.
Tu aimes la soca ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, mon papa, il faisait de la soca et j'ai goûté et après, c'était trop bon, alors j'en ai mangé plusieurs.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je prépare la soca.
Définition d'une soca, là on voit une espèce de pâte qui ressemble à une pâte à crêpes, mais rien à voir avec de la farine de froment.
Pas du tout, c'est la farine de pois chiche qui est fabriquée localement à Nantes. Donc il y a à l'intérieur de la farine de pois chiche, de l'huile d'olive et du sel et de l'eau bien sûr.
Vous la poivrez bien ?
Ça c'est la personne qui la déguste qui la poivre à la demande.
Donc là c'est une grande plaque, elle est en quelle matière ?
En cuivre étamé.
Combien ça fait de diamètre cette plaque ?
Elles font 70 de diamètre.
Et vous avez carrément le four adapté en fait au format de la plaque.
Exactement. C'est-à-dire que ces fours ont été faits artisanalement à Nice il y a 25 ans au moins. Et je veux dire, des fours comme ça, dans le commerce ne se trouvent pas. On ne trouve que des fours à pizza. Un vrai four à soca, ça n'existe pas. Je verse de l'huile que je passe à peu près partout dans la plaque. Et là, c'est la préparation de la soca. On verse dans la plaque qui est, vous voyez, assez liquide.
Vous faites quoi là ?
Là, je suis en train de mélanger la pâte à soca à l'huile et d'aérer
dans la plaque.
La pâte. Et d'aérer la pâte pour que ma soca soit croustillante.
Avec un petit fouet aplati.
Je rentre de l'air dans la pâte. Donc là, je mets la soca, si vous voulez, à l'intérieur. Et j'allume, si vous voulez, mon four en cuisson. Et vous allez voir, je vais vous montrer que le four cuit la soca par le dessus. Pas comme dans un four à pizza.
Donc la chaleur vient du dessus. Bon. Ça va griller la surface de la soca.
Voilà, vous pouvez regarder si vous voulez. Regardez.
Voilà, ah ouais.
La chaleur vient du dessus.
Et ça monte à combien en température ?
En principe, quand le four est bien chaud et qu'on débite de la soca, je pense que c'est dans les 500 degrés.
Et c'est combien de temps de cuisson une plaque de soca comme ça ?
Entre 7 et 8 minutes. Voilà, vous savez tout.
Oh là là.
C'est presque fini.
Décrivez-la moi.
Eh ben, il manque juste encore un petit peu, 2-3 minutes pour qu'elle dore un peu plus et c'est bon. Après, si je veux dire on la laisse une minute de plus, elle devient noire. Parce qu'il y a beaucoup de chaleur dans le four.
Donc là, il faut être vigilant.
Très vigilant.
Et si on la laisse pas assez, elle est jaune mais pas assez cuite.
Voilà, exactement. Elle n'est pas assez croustillante. Il faut qu'elle soit moelleuse à l'intérieur et croustillante dessus.
Voilà, ça croustille.
Je vous en fais une part, hein. Vous
oui.
Voulez un petit peu ?
Oh là là, fumante. Avec du poivre ?
Ça se déguste normalement, les gens, les connaisseurs la dégustent poivrée. Et souvent avec un bon petit verre de vin, de rosé ou rouge.
C'est du poivre fraîchement moulu ?
Ah, celui-ci, oui, c'est du poivre fraîchement moulu. Normalement, c'est meilleur.
Elle est croustillante et moelleuse à la fois, c'est vraiment ce qu'il faut.
Il y a cette note sucrée du pois chiche aussi. Et tu l'aimes la soca ici ou pas ?
J'adore la soca parce que en fait, c'est trop bon.
Sur 10, tu lui mettrais quelle note ?
10 sur 10.
10 sur 10 ? Waouh ! Ça, c'est un honneur incroyable. La soca de Richard et Bettina Mortier avec de la farine de pois chiche française qui passe d'ailleurs bientôt en bio et qui est moulue. Au moulin de Champ-Vermeil à Hanotte, on est dans les Alpes de Haute-Provence. 3 euros la part de soca pour un encas vraiment nourrissant. Hein. C'est presque un repas d'ailleurs. Et Bettina prépare également de délicieux pambagna et une pisse à la dière dans les règles de l'art. On file à Nice, non ? Ça fait envie ou pas ?
Oui. Avec un petit verre de belay.
Voilà, petit verre de belay, là vous évoquez.
Le cru qui est au nord de Nice, un petit cru avec des cépages autochtones, dans le braquet.
Absolument. La soca 215 avenue de la Californie à Nice, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. Et cette adresse de l'été, vous la retrouvez parmi tant d'autres dans un numéro spécial de l'Express que nous avons mitonné en partenariat avec France Inter. Nos meilleurs rosés de l'été, justement. Le top 10 de nos artisans glaciers préférés, les plus beaux marchés de France, les paysans boulangers bio, la liste secrète des petits pêcheurs qui vendent du poisson en direct sur toutes les côtes de France pendant l'été. Le tour de France de l'été gourmand, ce sont 66 pages d'adresses, de restaurants, de recettes, d'anecdotes croustillantes à retrouver en kiosque dans ce numéro spécial de l'Express en collaboration avec France Inter. Dans un instant, on la cultive, on la raconte, on les monde, on la cuisine. Et si on mangeait des tomates, mon amour, c'est ce que nous propose notre programmateur musical Djoubaka.
conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs, délaissent les patates pour se fouiller cravate. La tomate en salade ou tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca, un grand ténor ayant manqué le la. Ce soir-là, des tas, sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Sans par ces mots, supprimons la bomba, supprimons la la la, et remplaçons-la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
J'aime pas les tomates.
Bah tu les enlèves.
J'aime pas les pommes de terre non plus.
T'aimes pas les pommes de terre non plus, alors tu les enlèves aussi.
Il restera que la salade.
Et alors la salade, t'aimes pas la salade? Allez, mange.
On va déguster les saveurs de l'été.
Vous avez sans doute reconnu la voix de Michel Serrault dans le film Le Papillon de Philippe Muil. Preuve qu'on peut ne pas aimer les tomates. J'en connais même certains qui n'aiment pas trop les tomates, surtout quand elles sont cultivées dans des serres chauffées. Cher Xavier Mathias, le 11 juillet est tombée une décision importante concernant les tomates bio qui ne vous a certainement pas échappé.
Le Comité international de l'agriculture bio a autorisé l'utilisation du chauffage des serres, mais la commercialisation de ces fruits et légumes est interdite entre le 21 décembre et le 30 avril.
C'était un extrait du 12-13 de France 3, le comité national, et pas international comme on l'entendait parce que c'est une décision qui est strictement française. Le comité national de l'agriculture biologique autorise donc le recours aux serres chauffées pour produire des tomates mais aussi des concombres bio. Même si, effectivement, certaines conditions ont été posées par le ministère de l'Agriculture, comme la limitation de la commercialisation de ces fruits et légumes bio, qui serait interdite, cette commercialisation, entre le 21 décembre et le 30 avril. Xavier Mathias, avec vos amis maraîchers bio, vous l'êtes également, maraîcher bio, comment avez-vous accueilli cette décision ?
Bah en fait, on était terriblement choqués. Moi, je connais pas un seul de mes copains producteurs qui veuille faire de la serre chauffée de tomates. Et nous, notre constat, c'est de se dire que le débat est même franchement obscène. Il y a plein de gens qui dorment dehors en hiver. Hein. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, tant qu'on n'aura pas avancé là-dessus, même en parler, même l'évoquer, c'est s'abaisser, en fait. C'est perdre en humanité. Et nous, on fait du bio parce que on a toujours cette idée un petit peu derrière la tête de prendre soin de la terre pour prendre soin des hommes, l'un va pas sans l'autre. Et évidemment que c'est pas bon. Évidemment que ça contient pas de nutriments.
Donc il faut même pas évoquer la question, par exemple, qui a été rappelée par certains qui défendent cette décision, le fait que l'énergie fossile, jusqu'à maintenant utilisée pour chauffer ses serres, sera bientôt remplacée par une énergie propre. Dans ces conditions-là, ça vous semblerait plus acceptable ?
Moi je pense que si on a une énergie propre, c'est une très très bonne nouvelle. Peut-être que les gens qui peuvent dormir au chaud se sentiront encore mieux chauffés par une énergie propre. Nous, les producteurs, on n'a pas du tout envie de débattre là-dessus tant que ces problèmes ne sont pas réglés. On n'a pas envie de produire des tomates en hiver, ça ne nous intéresse pas, même techniquement. Il n'y a pas de gageure, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt. Là, cette année, il fait très chaud, très compliqué de produire, mais là, c'est notre métier.
Est-ce que la bio, dans son esprit d'origine, est selon vous dénaturé, détourné, dévoyé ?
Voilà en fait le vrai débat qui est posé, c'est-à-dire il y avait un cahier des charges monté par des producteurs qui ont été dépossédés de ça, et donc on voit clairement la volonté de le vider de son sens. Et pour moi, le changement même physique du logo, quand on est passé du AB clairement identifié par tous à cette espèce de feuille un peu indistincte, déjà c'était de dire non mais ce label ne vous appartient plus, hein. Et encore une fois, rendons hommage à ceux qui, dans les années 60-70, ont eu le courage de s'opposer au rouleau compresseur de la chimie de synthèse. Ne nous moquons jamais. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de me moquer du label AB. Juste maintenant, se dire, la société a changé. Il faut qu'il change réellement.
Sylvain Sandra, une réaction. Est-ce que ça vous choque des tomates bio issues de serres chauffées?
Je crois que ça choque tout le monde, en fait. Ça choque tout le monde.
Non, justement, c'est peut-être le débat.
Le débat, c'est que ça choque pas les gens qui ont voté cette loi et les lobbies qui ont poussé derrière. Mais je pense que ça a choqué les consommateurs et ça a choqué les producteurs. Ça a choqué les chefs, mais les chefs n'en parlons pas. Nous, on est militants pour manger des tomates en saison des tomates. En tout cas, les bons chefs. Et il y en a beaucoup. Et je crois qu'on tue la culture, mais la culture dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que la culture du travail du paysan et la culture du consommateur. Et quand on ouvre cette porte-là, c'est dangereux. Parce que du coup, on va s'habituer à manger des tomates bio, des cerises vertes, jaunes, violettes, de toutes les couleurs, et on va se dire que c'est normal. Et on est en train de tuer toute une culture, et ça c'est beaucoup plus dangereux en fait. Et là on a ouvert une porte qui est très très dangereuse, je pense. Alors les industriels vont dire qu'il faut faire plaisir aux gens. Faire plaisir à la bêtise, je suis pas sûr.
Oui, c'est un argument qui est utilisé. Après tout, les gens veulent manger des tomates bio en hiver. Et ben, il faut répondre à cette demande, la loi de l'offre et du marché.
Voilà, c'est-à-dire que moi, je rêve de faire 1m95, d'être blond aux yeux bleus. Et ben, je peux pas. Voilà, je peux pas. Il y a des choses on peut et des choses on peut pas.
On est heureusement rassurés sur le plateau dont on va déguster, puisque il y a des tomates dans toutes leurs formes, leur diversité, leurs couleurs différentes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Vous nous les avez apportées. Elles viennent d'où, Xavier Mathias ?
Alors, elles viennent, je suis un peu au regret de le dire, un peu péniblement, de Touraine et de la Vienne. Parce que, on a des canicules terribles. Et on est passé du stress hydrique, manque d'eau, au stress thermique. Température trop élevée. Ce qui fait qu'en plein champ, les fleurs tombent, les fleurs coulent. Et on a très très peu de fruits par bouquet, voire des bouquets qui ont sauté dans leur entier. Et puis, je suis un peu au regret de le dire, mais gustativement, on a une perte. Exactement comme en année humide, c'est pareil, ça mûrit mal. Là, ça n'a pas bien mûri. Les peaux sont dures, par exemple. Moi, je trouve, cette année, là, il faut les monder, à mon sens, les tomates, pour qu'elles fassent ressortir leur parfum. Donc, c'est une année difficile. Vraiment, j'ai une pensée pour les producteurs, pour Jackie Mercier, qui fait de la tomate de plein champ dans la Vienne. Et tomate de plein champ, faut avoir du cran pour faire ça, plus personne le fait. Et vraiment, je trouve ça dur pour lui ce qui est en train de se passer. Effectivement, on a regardé hier là dans les champs, effectivement, le nombre de fleurs coulées, c'est incroyable.
Était difficile pour les tomates. Xavier Mathias a employé un verbe qui n'est certainement pas passé inaperçu à l'oreille de notre chef Sylvain Sandra. Émondé, définition et technique.
Ah, émondé, c'est on fait une petite incision sur la tomate et on la plonge dans une casserole d'eau légèrement salée ou pas. Et on la refroidit et on enlève la peau, tout simplement.
On la plonge longtemps ?
Non, c'est vraiment un aller-retour. Dès que l'eau bout, c'est, on la plonge, on va dire, les 30 secondes et ça suffit. Même des fois un peu moins, ça va dépendre un peu de la texture de la peau. Donc la cuisine, c'est comme tout, faut toucher, faut sentir, faut ressentir. Moi, pour être honnête, je suis pas un grand fan d'émonder les peaux des tomates.
Parce que vous l'aimez dans son entièreté.
Parce que je l'aime dans
son intégralité.
Exactement. Ce que je préfère dans la tomate, c'est presque le pédoncule pour sentir un peu cette odeur de tomate.
Et oui, qu'évoquait Antoine Gerbel.
Dans la cuisine classique française, on nous apprend qu'il faut absolument émonder les tomates. Moi, je suis un peu feignant. La tomate, quand elle est bonne comme ça, c'est... Alors, fruits ou légumes, ça se croque d'un seul tenant. Faut croquer dedans, faut y aller. Et on garde tout, quoi. Tout est bon.
Sylvain Sandra, par votre famille, vous êtes de culture méditerranéenne. Est-ce que la tomate est une madeleine d'enfance, une madeleine de Proust?
Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve, on va dire, pas toute l'année, mais quasiment. Moi, j'avais une grand-mère qui était d'origine italienne, donc pas beaucoup d'argent. Donc, la tomate, elle récupérait, elle en avait un peu dans le jardin, mais elle récupérait un peu tout ce qu'il y avait, les invendus, les marchés, des choses comme ça, parce qu'elle elle a connu la misère en arrivant en France. Et c'est quelque chose qui a bercé toute mon enfance et qui continue, parce que l'origine italienne, l'Italie, il y a de la tomate de partout. Hein. Et mon père est un pied noir aussi, il fait son jardin, il y a des tomates de partout. Ma mère en peut plus à la fin de l'été, parce que il faut faire des bocaux. Et en plus, mon père a la main verte, alors c'est la catastrophe.
Trop de tomates.
Ça fait le bonheur de ma fille, parce que ma fille adore les tomates. J'ai une gamine qui est dingue de tomates, pour elle, c'est comme des bonbons. Donc ça, c'est plutôt... Quelquefois, c'est dans les gènes.
Eh bien, on va évoquer dans un instant avec Xavier Mathias les raisons de ce succès absolument incroyable qu'a la tomate aujourd'hui dans nos sociétés. Tout le monde ne parle que de tomates. Il y a même des urbains qui la cultivent sur leur petit balcon à Paris ou dans les grandes villes. Conserver les tomates, quand on en fait pousser dans son jardin, qu'il y a un surplus, qu'on en a trop, pour ne pas gaspiller évidemment, on les conserve. Et on les conserve en général dans des bocaux, au naturel.
Oui, au naturel. Le plus simple, c'est le bocal le parfait.
Hein, on parle de ce bocal en verre.
Oui, on parle de ce bocal en verre, avec la marque.
Avec le joint en caoutchouc orange.
Absolument. Moi, je trouve ça génial. Et pour faire une conserve, c'est hyper facile. Hein. On prend la tomate, on la coupe en deux. Enfin, on la rince avant, on la lave, mais comme elles sont bio, il n'y a même pas besoin forcément. Vous voyez, c'est de la cuisine de feignant, la cuisine biologique. Et on la coupe en deux, on la met dans une casserole d'eau, on la fait légèrement bouillir, on prend la tomate, on la passe au moulin à légumes. Et c'est ce qu'on appelle la passata en Italie. Tout simplement. Alors, il y en a qui vont mettre de l'ail, il y en a qui vont mettre du basilic. Moi, ce que je fais, c'est que je la passe, je mets le basilic et une gousse d'ail en même temps cru quand je la passe. Je la mets dans le bocal, on stérilise. Donc, stériliser, c'est facile. On prend les le parfait très propres. On la met directement dans le bocal sans sel, sans rien. Oui. On touche à rien.
D'accord.
Et on ferme le couvercle et on la fait bouillir, une petite pasteurisation très légère.
Après avoir fermé le couvercle.
Après avoir fermé le couvercle, bien sûr. Ouais. Et après, on la refroidit et on peut la garder.
30 ans? 40 ans?
Oh, peut-être pas 30 ans, 40 ans, mais ça suffit jusqu'à l'été prochain ou jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles tomates.
Très bien. Xavier Mathias, vous me disiez que les légumes, c'était comme les bagnoles, comme les fringues. Il y a des modes.
Oui, exactement. C'est étonnant. Donc, on a évoqué les pois ici. Et donc, on a vu la mode du petit pois. Un petit peu après, c'était la mode du melon qu'on va évoquer ensuite. Et donc là, en ce moment, c'est la mode de la tomate. Et on ne jure plus que par les tomates. On a même l'impression du folklore qui va avec, de variétés anciennes. Alors moi, une de mes variétés préférées, c'est Green Zebra. Superbe, délicieuse, et Green Zebra.
Oh là là, décrivez-la nous.
En fait, elle est verte marbrée de jaune. Mm-hmm. Elle est vraiment très très belle, c'est un calibre moyen. C'est pas une grosse tomate, elle est bien ronde, bien sphérique, pas du tout une forme cœur de bœuf. Elle est un petit peu fragile, en fait, même à cultiver. C'est Tom Wagner, en fait. C'est pas une variété ancienne.
C'est hein. Ça. C'est-à-dire que derrière cette tomate, il y a effectivement, alors cette tomate connaît un succès planétaire, voilà. Mais son inventeur n'est pas tellement connu du grand public. Et il a un destin passionnant. Hommage à Tom Wagner.
Ah ouais, Tom Wagner, l'obtenteur de la Green Zebra en 1984, et qui a créé sa première variété de tomate à 12 ans. Il a 65 ans maintenant, 66 ans. C'est un Américain, un type absolument génial, ce qu'on appelle là-bas les free breeders. C'est-à-dire que c'est les obtenteurs qui mettent à disposition de tout le monde.
Les semenciers libres, on pourrait dire.
C'est ça, exactement. Il a jamais déposé quoi que ce soit sur les Green Zebra. Et moi, j'encourage tous les jardiniers, tous les consommateurs, en hommage à Tom Wagner, qui ne touche pas un centime sur Green Zebra. Par contre, c'est un petit peu l'exemple type de la fausse variété ancienne. On nous présente, et c'est 1984, hein, donc c'est pas si vieux que ça quand même. Et les variétés anciennes, en fait, on cultivait peu de tomates en France, hormis dans le sud de la France. Et les variétés anciennes de la fin du 19e, c'était des variétés commerciales. Mm-hmm. Donc on a Merveille des marchés, on voit bien l'intérêt hein, quand même, c'est pour aller au marché. Et puis une anglaise délicieuse qui s'appelle Money Maker.
Ah là c'est au moins c'est il cache pas l'enjeu.
Ah non, c'est
faire de l'argent avec de la tomate.
Ah oui, c'était fait pour ça.
Et
oui,
ça date fin 19e.
Ça c'est fin 19e, c'est début 20e.
Ouais. Donc l'appellation tomate ancienne qu'on utilise beaucoup, qui est d'ailleurs utilisée par on va dire des gros exploitants bretons
bretons, des gros producteurs.
Voilà, en hydroponie, oui.
Oui, c'est ça, c'est du folklore.
Oui, c'est du folklore pour l'essentiel. Oui, oui, mais parce qu'on a besoin de temps en temps de donner, vous savez, recettes de grand-mère, trucs de grand-mère, et donc de donner un côté ancien à quelque chose qui ne l'est pas. Et la tomate des Andes, que tout le monde aime beaucoup, moi j'aime beaucoup la tomate, ouais, qu'on appelle cornue des Andes, etc. Moi j'appelle la tomate saucisson parce qu'elle est géniale à couper en tranches. Elle se tient, c'est incroyable.
Mais la cornue des Andes, décrivez-la nous, elle porte bien son nom. Hein.
Ah oui, alors elle a vraiment une forme de corne. Hein. Et cette cornue des Andes, c'est le biogerme qu'il a réintroduit dans les années, à fin des années 70. Et elle est ramenée des Andes par ce qu'ils appellent les stagiaires là-bas. Il faut savoir que le biogerme, c'était une communauté de l'Arche. Et en fait, c'était un routard qui a ramené ça en France. Et c'est de là que c'est parti. Donc c'est assez rigolo de voir le trajet, mais finalement assez récent, toutes ces variétés de tomates. Tant mieux, réjouissons-nous, parce que on parle d'érosion de la biodiversité. Question tomate, non, il n'y a pas d'érosion. Il y a une explosion de la biodiversité, des variétés accessibles à tous.
Même si la tomate est cultivée intensivement dans le monde entier, les chiffres font peur. 126,2 millions de tonnes de tomates cultivées par an dans le monde. Et vous avez une idée de la surface en nombre d'hectares consacrés à la culture de la tomate dans le monde, c'est 4,63 millions d'hectares.
C'est
colossal.
Ouais, colossal pour quelque chose qui est quand même pas très nourrissant, hein, en fait. Hein. Donc, si on avait vraiment faim, peut-être qu'on arrêterait en premier lieu de nourrir des animaux, et peut-être en second lieu de revenir sur des productions qui soient plus raisonnables. Donc là, on a des consommateurs qui veulent manger des tomates en hiver, il paraît, mais je les plains, parce qu'en hiver, c'est pas de ça qu'on a besoin, hein, quand il fait froid.
Si c'est pas très nourrissant, pourquoi aime-t-on la tomate? Pourquoi a-t-elle tant de succès depuis les années 90? C'est vraiment là. C'est vraiment le fruit à la mode de la fin du 20e siècle, du début du 21e. C'est quoi pour sa dimension sucrée?
Ah oui, voilà. C'est pareil. Hein. Je suis confus d'être un petit peu rabat-joie. Mais nous sommes une société qui va vers le sucre. Et je vais avoir ce regard un peu cruel qui de dire que une société qui s'infantilise va vers le sucre.
La tomate s'éclate sur le plateau dont on va déguster. Elle est là. Très belle panoplie multicolore. Elle est fraîche. Mais elle existe aussi en boîte et on peut en faire de très belles choses.
On va déguster. Sur France Inter.
Déborah Dupont.
Ah. Oui, je fais la provoque aujourd'hui. En pleine saison de tomates, je n'ai rien trouvé de mieux que de mettre en avant un livre qui s'appelle « Juste une boîte de tomates pelées ». Imaginez un livre dédié à la tomate pelée en boîte de conserve.
Il commence à faire la grimace.
Il se pose des questions là quand même. Ça fait pas rêver.
Où est-ce que j'ai atterri? Que se passe-t-il?
Ça fait pas rêver, oui et non. Parce que on le sait, c'est-à-dire que les gens aiment manger des tomates toute l'année. Alors quitte à manger des tomates toute l'année, autant éviter les horreurs en plastique qui n'ont aucun goût, qui sont pleines d'eau, qui n'ont pas de texture et qu'on a les trois quarts de l'année. Parce que moi je me souviens, enfin la tomate, mon grand-père disait on les met en champ début mai. Donc par définition, on peut pas en avoir avant juillet, hein, et ça se tient jusque quoi, allez début octobre, les années où ça va bien.
Oui, au plus tard. On a réussi ce tour de magie quand même que on avait une saison des tomates et les tomates étaient bonnes l'été, et maintenant les tomates sont immondes toute l'année.
Toute l'année.
C'est tout pas à fait. Non mais c'est vrai, c'est important.
Tout dépend, on les achète.
Ah bien sûr.
Parce qu'on a tous cette madeleine quand même de cette tomate qu'on a été cueillir au fond du jardin
au
du grand-père
jardin,
ou des pères et tout, qui était le vrai fruit. On nous apprenait ce qu'était, pourquoi une tomate était un fruit quand elle était mûre sur le pied. Aujourd'hui, je ne retrouve plus du tout ça.
Et donc c'est vrai qu'avant, on pouvait avoir des tomates, des bonnes tomates, trois mois dans l'année. Maintenant, on tire un peu la tête. Donc l'avantage, c'est qu'on peut quand même trouver des bonnes tomates en boîte. Car on peut se dire qu'avec un peu de chance, certains producteurs qui vont bien travailler vont effectivement mettre en boîte de la tomate de plein champ, en pleine saison, cueillie à maturité. Et donc là, il faut faire très attention à la provenance des tomates en boîte. Je pense que vous aviez tous vu, il y a 2 ans, le documentaire édifiant qui était paru par Jean-Baptiste Mallet, chez Fayard, qui s'appelait L'Empire de l'Or Rouge.
Oui, absolument, enquête voilà. Stupéfiante.
Stupéfiante, qui expliquait qu'en fait, la plupart des tomates en boîte venaient de Chine et étaient contrôlées par la mafia.
Premier producteur mondial de tomates, la Chine.
Pour des tomates, effectivement, qui sont très très dures, totalement plastiques et sans aucun goût. Mais en fait, si on regarde des tomates production 100% française ou 100% italienne, on arrive à avoir des très bonnes choses. Je pense notamment les marques Muti, les marques Decheco, qui font un vrai travail qualitatif, qui utilisent des variétés de tomates. Ça va être de la tomate ronde sur le nord de l'Italie, ça va être la San Marzano sur la région de Naples, et d'ailleurs qui est AOP depuis 1996. Donc ça montre bien qu'il peut y avoir une démarche qualitative.
Ils ont même des gammes bio, hein, les
produits. Ils ont des gammes bio.
Les marques que vous vous utilisez.
On trouve aussi des marques de tomates cerises en boîte. Donc on peut vraiment se faire plaisir. Et donc un livre très intéressant est paru aux éditions Marabout. Juste une boîte de tomates pelées par Guillaume Marinette. Ah, nous avions reçu Guillaume dans l'émission sur le chou-fleur, exactement. Et j'ai retenu une recette de tatin de tomates toute simple. Où en fait, il suffit d'égoutter pendant une dizaine de minutes des tomates en conserve. Alors on peut aussi le faire avec des tomates fraîches, mais là, je me suis vraiment prêtée au jeu de le faire avec des tomates en boîte. Donc, il faut à peu près l'équivalent de 3 boîtes que j'ai effectivement égouttées. Pendant ce temps-là, dans une casserole sur feu doux, on mélange 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Mm-hmm. On fait fondre tout ça, on rajoute les tomates, on les laisse compoter 2-3 minutes et ensuite on verse ça dans un moule à tarte tatin. Alors moi j'ai fait directement dans mon moule à tarte. On recouvre d'une pâte feuilletée, on enfourne à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et on se retrouve avec une tatin qui fait franchement le job, je trouve.
Alors, qui l'a goûté autour du
plateau ? Qui est plus sucré, j'avoue, c'est plus sucré qu'une recette normale, mais il y a aussi le vinaigre balsamique.
C'est très bon. Sylvain Sandra ?
Moi j'ai honte, elle est plus jolie que la mienne.
Plus jolie ou meilleure ?
Les deux, je pense.
La vôtre est pas mal aussi.
Elle est très très belle, celle de Sylvain. Il y a une battle de tatin là sur le plateau.
La recette de Guillaume Marinette, on l'a sur le site internet.
Bien évidemment, sur le site
franceinter.fr à la page On va déguster. On a également la recette de tatin un peu différente, version grand chef de Sylvain Sandra.
Ouais,
vous nous la faites goûter, vous nous l'expliquez ?
Oui, je vous la fais goûter. Il faut que je te donne des assiettes. Tiens. Alors moi, c'est une recette. Alors comme c'est une version chef, c'est la version qu'il faut tout de suite démouler en sortant du four à manger.
Oui.
Donc c'est le truc pas pratique, tu sais, pour la ménagère. Mais c'est pas mal non plus. C'est tout simple. Hein. On prend les tomates, on les fait légèrement confire, un petit peu de sucre, un petit peu de
sel. On les fait confire comment ?
Alors on les fait confire aux 30 secondes au four, enfin 5-6 minutes au four à 180 assez rapidement, juste pour leur faire rendre un petit peu d'eau parce qu'elles sont quasiment crues encore. Hein. Mm-hmm. Et en fait tout le charme de cette recette, c'est vraiment une recette à la minute, hein. Là ce qu'on n'a pas pu faire sur le plateau. Et après on les met sur un moule à tatin, la tête en bas,
ouais.
Et on met la pâte feuilletée maison dessus, et on remet ça au four avec un petit peu de thym, et voilà. Et quand ça sort du four, la pâte est croustillante, la tomate a rendu un petit peu de jus, ça remouille et c'est plutôt pas mal. Après ça se tient pas très bien, mais c'est pas mauvais.
Bah, ça m'a l'air pas mal du tout.
C'est même très très bon. Et ensuite, un petit détail, bravo pour la pâte. La pâte est réellement délicieuse.
Oh là, c'est bon.
Ah ouais. Et la pâte ajoute beaucoup.
Alors, la pâte, c'est Augustin qui nous l'a fait, hein. C'est une des personnes qui travaille chez moi.
On parle bien de la feuilletage.
La feuilletage maison. Oui, ben, maison avec du beurre, du vrai beurre, voilà. La vraie pâte.
Pas feuilletée, quoi.
Pas feuilletée, quoi.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il en pense, notre ami, Antoine Gerbel?
C'est bien parce que c'est déjà tout un voyage. On a eu deux expressions. On va dire été, collection hiver. Mais ça, on peut parler du goût, là. La concentration, étonnant comme la concentration de l'acidité peut être plus marquée sur la conserve, hein. Ça concentre un petit peu plus cette acidité parce que c'est quand même le fil conducteur de toute la tomate. J'en reparlerai avec les vins. Et que là, on est plus dans le fruit. Ça sucre, le côté sucre naturel et direct de la tomate.
Il a tout dit, c'est pulpeux. On est dans un fruit. Là, on en a des preuves, j'allais pas dire vivantes puisque ce sont des preuves cuites. Mais la tomate est bien un fruit, hein, Xavier.
Ouais,
botaniquement.
Botaniquement, c'est bien un fruit, hein. C'est issu de la fécondation d'une fleur et ça contient des graines. Et le mot légume, en fait, légume, c'est le chef qui décide. Soit il le fait plutôt salé et ça va être un légume, ou soit on peut faire un sorbet et là ça va être considéré plus dans nos habitudes comme un fruit. Mais la distinction, c'est le chef qui l'a fait. Nous, d'un point de vue strictement botanique, il s'agit bien, comme les courgettes, comme les melons, comme les concombres, d'un fruit.
Très bien. Dans un instant, vous évoquez, vous nous racontez, Xavier Mathias, le destin botanique étonnant de la tomate et d'une certaine cousine qui lui ressemble pas a priori, mais elles font partie de la même famille, c'est la pomme de terre. D'autres recettes avec notre chef Sylvain Sandra et on l'a dit, une petite page vin pour évoquer les accords entre la tomate et nos amis les vins pendant l'été. On retrouve tout ça juste après une tranche de folk signée par la chanteuse néo-zélandaise Aldous Harding, Picture. Bel été sur France Inter.
In the cold. we'll share a glass together and ride the dunes. I'm riding too. There's a definite vibe. You can't be pure and in love in the corner in blue. Is my name
in the corner
fixture?
La tomate épate, la tomate s'éclate sur le plateau dont on va déguster. On vous confirme que c'est bien l'été avec la tomate. Alors Sylvain Sandra, notre chef, il est tout simplement allé piquer quelques tomates, notamment, on recite évidemment votre ami maraîcher.
Mais Jackie Mercier, oui.
Jackie Mercier et également Fabien Dumont. Vous le connaissez, Fabien Dumont ou pas, Xavier Mathias? Il est maraîcher à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône.
Je connais deux réputations parce que c'est un excellent maraîcher, mais pas personnellement.
Distribué par nos amis de Terroir d'Avenir à Paris. Donc vous avez fait votre marché sur le plateau dont on va déguster, Sylvain, et il en résulte une très très belle salade.
Oui, absolument.
Ah, moi, je suis admiratif. Je vois dresser la salade depuis tout à l'heure. Il a passé le disque.
Vous allez la goûter surtout.
Ah, mais c'est
Déborah.
Ça... Avec grand plaisir.
Oh là là.
Alors, il faut expliquer. C'est un peu entrée plat dessert. Hein, oui. Au niveau des couleurs, au niveau des volumes.
Imaginons une espèce de rosace avec des tomates de toutes les couleurs coupées en gros quartiers et avec et avec un assaisonnement, une vinaigrette particulière.
Oui, mais c'est une vinaigrette à base de vinaigre balsamique et de sauce soja.
Oui.
Et je trouve que c'est très très intéressant de mélanger les deux. Et on met aussi des tomates à macérer à l'intérieur dedans. Parce que la tomate donne du goût à la vinaigrette.
C'est ça.
Donc l'idée, c'est de mettre beaucoup beaucoup de tomates à macérer dans cette vinaigrette-là. Et ça marche très très bien.
Et alors, la tomate rend un peu son jus, ça se mélange. Les proportions à peu près, vinaigre balsamique, sauce soja, huile d'olive.
C'est deux tiers de vinaigre balsamique, un tiers de sauce soja. Et alors l'huile d'olive, ça dépend de l'huile d'olive et on en met beaucoup. Parce que moi j'ai la chance d'avoir un producteur d'huile d'olive avec qui on travaille, qui est un copain, qui est la famille Rossi, dans le Gard. Et ils ont une super belle huile d'olive. Je ne devrais pas donner le nom parce que je ne vais plus en avoir après. Mais non, ils n'ont pas une très grosse production.
D'accord.
Mais il y a encore des très belles huiles d'olive en France aussi.
Oui.
Et on en a des très belles en Corse, on en a des très belles dans le sud de la France avec des goûts complètement différents. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, quand la tomate d'ailleurs des fois pas beaucoup de goût, l'huile d'olive elle est vraiment hyper intéressante de l'avoir là, surtout quand elle est ardente. Parce que là, il ne faut pas avoir peur des huiles d'olive ardentes.
C'est ça. Et on privilégie, si possible, un Nacchetto Balsamico de qualité. Et je vous renvoie à l'émission que nous avons consacrée au vinaigre balsamique il y a quelques semaines. Oui, car il y a à boire et à manger dans le vinaigre balsamique. Et il y a notamment des gros sirops au caramel chimique qui se baladent effectivement dans les vinaigres balsamiques. Une question d'auditeur, Déborah Dupont.
Oui, j'ai Claire, en fait, à Orléans, qui s'interroge sur la cœur de bœuf et qui avoue être complètement perdue parce qu'on lui a expliqué qu'il y avait de la vraie et de la fausse cœur de bœuf.
Voilà. Du coup, rassurez-la, je suis perdu aussi.
Ah, c'est pas voilà. Bon signe.
Donc, moi, je connais Courdiboué, qui est une petite variété rose italienne.
Ouais.
Après, on a vu débouler des cœurs de bœuf, type chair de bœuf, type cœur de bœuf, etc. Donc, moi, je suis un petit peu perdu là-dedans. Donc, la cœur de bœuf, c'est Courdiboué. C'est une petite tomate rose demi-saison. Après, on a des sélections charnues plus anciennes qui sont apparues récemment, hein, c'est pas sur le marché. Et on parle de type cœur de bœuf ou type chair de bœuf. Donc là, ce que je vous recommande, c'est auprès d'un maraîcher qui en propose. Quand vous la trouvez bonne, vous conservez le maraîcher. Et voilà, et surtout qu'il garde bien ses variétés. Sachez que c'est des types a priori et que ça signifie en fait pas grand-chose, hein, tout ça.
Il y a un producteur français industriel de tomates qui nous fait passer une tomate très côtelée pour une cœur de bœuf, alors que la cœur de bœuf des Italiens, ça a vraiment la forme d'un cœur.
D'un petit cœur.
Et qui n'est pas forcément bosselé, côtelé.
C'est ça. Donc là, il y a quelque chose d'assez scandaleux, hein, d'ailleurs, qui se passe à propos des tomates. On a vu des boulets de Bretagne avec des venant de serres en hydroponie. On a vu des boulets, des tomates dites anciennes. Je ne vois pas ce qu'elles ont d'anciennes, hein, ces variétés-là, adaptées à la culture hors sol, vendues une fortune en plus, et puis avec tous les défauts qu'on reproche à ce type de variété, c'est-à-dire, voilà, tiens, un truc pour reconnaître les variétés anciennes des variétés modernes. Une variété moderne, elle doit supporter le transport. Donc, c'est une peau dure non adhérente à la chair. Les variétés anciennes qui éclatent de peur au moindre contact, c'est peau fine et adhérente à la chair. Voilà, ça c'est le truc qui est immanquable en fait. Et la sélection, elle a porté sur avoir des peaux de plus en plus dures, de plus en plus décollées de la chair, pour tenir le transport tout simplement.
Et la conservation, parce qu'on s'aperçoit qu'on a certaines tomates, on peut les laisser limite 10 jours sur le plan de travail de la cuisine, elles n'auront pas bougé, c'est pas bon signe non plus. Hein.
Oui, on peut même les lancer par terre, elles rebondissent.
Xavier Mathias, on ne dirait pas comme ça, mais... La tomate est une proche cousine de la pomme de terre de la même famille des Solanacées.
Exactement, Solanum lycopersicum pour la tomate, Solanum tuberosum pour la pomme de terre. Pour ceux qui auraient un petit doute, regardez quand ça fleurit, regardez les fleurs, c'est comme ça qu'on fait des qu'on classe en famille. Effectivement, les deux fleurs sont très très proches et elles ont eu aussi un chemin assez proche. C'est des Solanacées, c'est des plantes maudites, hein. C'est la jusquiame, la mandragore, la belladone, le datura. Donc on se méfie des Solanacées, hein, quand même.
On les prenait un peu pour des plantes toxiques.
Ah oui,
qui viennent d'ailleurs de la même aire géographique.
Voilà, et d'ailleurs, il y a une toxicité dans la feuille de tomate. Hein. Donc voilà, on mange pas les feuilles, hein, surtout dessus. Et donc, elles ont mis du temps à s'implanter. Hein. On les a regardées avec beaucoup de méfiance. Il a fallu Parmentier pour la pomme de terre qui a réussi à l'imposer un petit peu. Et nous, mais il a fallu la Révolution française, en fait. Ce sont les Marseillais qui ramènent les tomates qu'ils tenaient des Italiens, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, hein, les Italiens à chaque fois.
Et qu'on parle de légumes, on parle des Italiens, qui ont accueilli, il faut le dire, bien avant nous, la tomate, puisque les premiers à la fin du 16e siècle, l'ont vraiment, les Italiens l'ont adopté du côté de Naples.
Oui, et puis même, ils l'ont adopté avec beaucoup de complaisance. Ils l'ont appelé pomme d'amour ou pomme d'or. Ils lui ont prêté des vertus aphrodisiaques, etc. Et nous, botaniquement, lycopersicon, ça veut dire pêche de loup, hein, quand même. On était vachement plus méfiants. Hein.
Donc redites-nous, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, Xavier. À partir de la Révolution française, les Français découvrent la tomate.
Oui, c'est ça. C'est une plante d'ornement, en fait. Et donc, il faut attendre 1785, par exemple, pour que dans le manuel du bon jardinier, elle passe des plantes d'ornement, elle soit signalée comme plante à cultiver, un plante à consommer. Donc, c'était une curiosité botanique, en fait, mais dont on se méfiait. Hein. Mais effectivement, les baies de belle de nuit font peur, quoi. Donc là, on voit des baies sur les tomates, et on se dit, c'est pareil, ça doit être dangereux. Et donc, les Marseillais nous l'amènent. Brillat Savarin est convaincu. Nous, on peut pas faire vraiment des tomates à consommer crues au nord de la Loire, donc on en faisait que des sauces, en fait. Et Brillat Savarin nous dit qu'on en fait de très bonnes sauces. Hein. Donc là, c'est bon, la tomate commence à avoir enfin son passeport et à pouvoir s'implanter tranquillement. Mais elle rencontre pas ce succès qu'on lui connaît maintenant. Hein.
Tomate fraîche et raisin fermenté, qu'est-ce que ça donne ?
On va déguster sur France Inter.
Antoine Gerbel s'est penché sur cette question épineuse de la tomate dans ses accords, ses amours avec le vin.
J'ai envie de vous dire, vous faites comme vous avez envie. Parce
déjà, que pour commencer.
On vient de le voir, la tomate, elle peut être crue, elle peut être assaisonnée crue, elle peut être avec un peu d'herbe, elle peut être avec un vinaigre plus ou moins sucré si on part sur le balsamique. Après, quand elle est cuite, elle concentre énormément de choses. L'addition, on n'a pas parlé de la viande, mais les plats tels les petits farcis ou la tomate farcie, c'est quand même, on change. Le repère est très très large. Donc, il n'y a bien évidemment pas un vin comme
bien
toujours.
Sûr.
Il y a d'abord votre goût, je le rappelle, il n'y a pas un grand sachant qui vous dit ce qu'il faut boire avec. Il y a surtout votre goût. Et alors, quand la tomate, elle vient du potager en fin de journée,
et qu'on la ramène, elle est un peu chaude. C'est le petit blanc qui est au frigo, qui est sympa. C'est quand même ça, c'est quand même ce moment-là, et on peut la croquer. Et je rappelle, c'est une anecdote que je crois que j'ai déjà racontée, mais dans mes jeunes années, je parcourais l'Alsace et j'ai rencontré un grand monsieur, il s'appelait Jean Meyer, la maison Jos Meyer, et j'arrive exactement à cette heure-là, il était 17h, j'étais un peu en retard pour une dégustation de vin d'Alsace, et il avait ses tomates, il venait de les récolter de son jardin, il me dit, je pense que vous ne connaissez pas cet accord. Il me sert un verre blanc, bien évidemment, d'Alsace. Je goûte, je sens, je crois reconnaître le cépage, et il me dit goûtez. Et c'est une explosion fantastique, je croque la tomate et je bois un verre de Gewürztraminer de l'année qui n'était pas encore en bouteille. Et depuis, j'ai fait un chemin autour de cet accord aromatique, parce qu'on évoquait la fleur, la feuille de tomate, il y a quand même des précurseurs d'arômes incroyables dans cette tomate, et donc il faut aller naturellement, on va dire, surtout dans la partie crue, du côté de ces vins blancs. Et alors il y a un cépage qui est souvent malmené, parce qu'on le voit en gros sur les étiquettes, surtout dans le Nouveau Monde, dans l'hémisphère sud, c'est le Sauvignon, avec ce côté hyper aromatique, trop presque aromatique, et j'ai plein d'amis autour de moi qui aiment le vin, puis dès que je sors un Sauvignon, non, tout sauf du Sauvignon. Bien évidemment, ça m'excite, je dis bien évidemment, je veux vous trouver du Sauvignon intéressant, et le Sauvignon, comme tous ces cépages aromatiques, il faut les contraintes, il faut que l'homme aille justement pas trop dans ce sens hyper aromatique, donc il y a des terroirs pour ça, plutôt calcaire, plutôt frais, et là, je vais vous amener une petite découverte, alors c'est un Sauvignon de Bourgogne, en Bourgogne, oui. Tout le monde sait qu'on fait surtout du Chardonnay, dans le nord de la Bourgogne, à Chablis, à côté de Chablis, tout le monde sait que c'est du Chardonnay. Et non, il y a une petite appellation qui s'appelle Saint-Brie, Sauvignon de Saint-Brie. C'est juste à côté de Chablis, justement. Et il y a des producteurs qui font des blancs. Et là, c'est le fils Berson, Pierre-Louis Berson, qui m'a envoyé sa dernière petite production. Il n'en a pas planté beaucoup, 50 arts, d'un Sauvignon particulier parce que c'est le fier gris. Comme dans les tomates, il y a plein de variétés. Le fier gris, on l'a vu traîner dans la vallée du Cher, un peu dans la Loire. On en retrouve. Dans les années 50, il restait 15 hectares. Ouais, aujourd'hui, on en démonte un peu plus de 500, donc ça va un peu mieux. Mais c'est un Sauvignon, mais avec une pulpe plus grise et qui va vous donner un vin avec beaucoup plus de chair. C'est le vin que vous avez dans votre verre à pied et vous allez voir, vous allez reconnaître, je pense, le Sauvignon au nez, mais il est plus gras en bouche. Et c'est ce que j'aime dans ce vin blanc, c'est que aromatiquement, on va pouvoir matcher avec justement une vinaigrette un peu relevée, un petit peu sucrée, avec du balsamique.
Vous connaissiez Sylvain Sandras, Saint-Brie ?
Alors, je connaissais l'appellation, celui-là, je le connaissais pas, et il est très bon.
Ah oui.
Voilà, Bersan, c'est son 2018-17, et ça coûte 14 euros.
Et ça salive, hein. C'est bon, ça salive en bouche.
Et voilà, et les vacances, le nord de la Bourgogne est un peu fermée, difficile à visiter, une cave en Bourgogne, aujourd'hui c'est compliqué. Le nord de la Bourgogne, non, à Chablis, on reçoit encore, il y a plein de vignerons, et du côté des petits villages, Saint-Brie notamment, Chablis, et ils sont là, les vignerons, ils peuvent vous accueillir. Prenez un petit coup de fil, et ils peuvent vous recevoir. Voilà, sur la route des vacances. Il y a un autre petit, alors c'est un clin d'œil, alors là c'est très très drôle parce que j'ai envie de pousser les vignerons à aller un peu plus sur ce terrain-là. C'est un Sauvignon que je vous ai servi dans le verre là, c'est un Sauvignon de macération. Alors je peux pas en parler parce qu'il n'existe pas sur le marché. Je l'ai trouvé dans une virée que j'ai fait à Mentoux Salon, un très joli vignoble 100% Sauvignon dans le centre. Elle s'appelle Hors Sujet, c'est une macération pelliculaire qui a été faite par Philippe Gilbert, il en a fait 500 litres, donc 1200 bouteilles. Et là, c'est un Sauvignon fait comme du vin rouge. On en a déjà parlé de ces blancs de macération. Vous laissez macérer avec les peaux longtemps. Et alors, aromatiquement, ça peut choquer, hein, je suis d'accord. Mais ça rappelle des notes épicées, par contre, qu'on a souvent dans la tomate. Et surtout la texture. Et là, j'ai le lien avec la cuisson de ma tomate. Parce que je peux arriver sur les rouges, la texture, les tanins. Et alors, le dernier rouge que je voulais évoquer, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu récemment. C'est le vin d'une ligérienne, elle a un nom parfaitement ligérien, Fiona Bistons. Fiona Bistons, c'est une ex-journaliste, ex-caviste, qui a acheté un petit terroir magnifique dans le haut de Chinon. Vous savez que Chinon, cette magnifique ville qui surplombe la Vienne, tous les clos étaient identifiés du temps très très longtemps, bien avant même certaines vignes bourguignonnes, et elles sont restées en clos. Elle a mis la main sur le Clos des Capucins, c'était un nom qui avait un peu disparu, mais qu'on retrouve depuis longtemps, et elle nous signe là un de ses premiers vins, ça fait 10 ans à peu près qu'elle fait du vin, ça s'appelle Perfectly Drinkable, et c'est du pur Cabernet Franc, et je trouve que ce Cabernet Franc de la Loire, avec ses tanins sauvages un peu, hein, c'est un peu sauvage, la craie, le tuffeau ramène notre note sauvage, et ben quand fait, c'est peut-être le lien le plus intéressant avec la tomate cuite.
Mais oui, voilà. Avec la tomate cuite.
Très bon.
Sylvain Sandra, ça vous plaît ou pas?
Ah mais moi j'adore, c'est, le chinon est délicieux.
Le toucher de bouche est très agréable, hein, c'est ça roule sous le palais.
On a cette finesse, vous savez, avec Chinon, comparé à Bourgueil ou à Saumur-Champigny, dans ces grandes familles de Cabernet Franc, c'est d'abord le soyeux très très délicats de ces tanins et qui vont très bien, je trouve, avec la cuisson de la tomate. Et juste, si on est en Italie, parce que qu'on parle et on évoque les rouges italiens, ah, ont cette acidité, ont cette colonne vertébrale sur l'acidité qui fonctionne comme très très bien avec tous les plats à base de tomates.
Très bien, merci beaucoup. Deux questions à aborder. La première, c'est celle des couleurs, la nature. Et les sélectionneurs, évidemment, nous offrent des tomates de toutes les couleurs. Il y en a des jaunes, des oranges, il y a même la rose de Berne. Il y en a des vertes, il y en a, oulala, une.
Je l'ai piquée, j'avoue.
J'ose le dire.
Elle est mélange bleu-verte, un peu pourpre. Un peu...
Elle a la couleur de la pomme de terre Vitelotte. Elle est violette.
Ah oui, elle est assez magnifique. Aubergine. Avant maturité, elle est violette et puis elle devient pourpre à maturité. Ouais. Quand on la cueille complètement, on voit que le pédoncule laisse un tatouage vraiment très très joli sur le fruit. C'est une tomate qui est récente. Elle s'appelle Osu Blue. C'est une américaine et moi j'aime beaucoup. Non pas qu'elle soit meilleure que les autres, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les sélectionneurs américains qui l'ont voulu, pour une fois, ce qui... leur objectif était clair. On veut faire du beau. Et c'est vraiment, mais c'est super agréable de voir des sélectionneurs qui disent non, on veut pas faire du transportable, on va pas faire du conservable, on veut que ce soit beau et plaisant à l'œil aussi. Ça tombe bien, moi je la trouve plutôt assez bonne. Et en fait, le jeu des couleurs chez les tomates, ce sont les lycopènes et les bêta-carotènes dedans.
Là, vous évoquez des pigments.
Voilà, des pigments. Et puis, on va jouer là-dessus. Et puis aussi sur des gènes qui font que certaines ne perdent pas leur chlorophylle à maturité. Donc elles restent vertes et certaines peuvent être zébrées, rayées. Ça, c'est chromosomique en fait. Et donc avec tout ça, on a une palette de couleurs qui est possible et on associe couleur de chair, couleur de peau et on peut obtenir des variétés de couleurs complètement différentes. Ce qui est aussi assez agréable, c'est de se dire que bah oui, les différences de saveurs qu'on va trouver entre une jaune, une rouge, une pourpre, c'est pas subjectif. Hein. C'est-à-dire que chimiquement, la tomate n'est pas composée de la même manière. Donc effectivement, il y en a qui sont très riches en bêta-carotène, comme Caro Rich, hein, par exemple, est très très riche. Il y en a qui sont très riches en lycopène quand on est très rouge. Donc voilà, effectivement, on a des saveurs qui sont clairement différentes, sans compter que les années et les terroirs influent énormément.
Et bien sûr. Donc vous êtes en train de nous dire que ceux qui inventent, entre guillemets, même si le mot peut paraître un peu surprenant, des variétés de tomates, ils agissent comme le peintre avec ses pigments.
C'est exactement ça.
Pour obtenir une tomate orange, on met du rouge et du jaune.
Bah, en schématisant, oui, non, mais c'est exactement ça, en fait. Et Tom Wagner, avec sa prune noire, sa raisin vert, etc., lui, c'est un maître dans cette discipline. Il est absolument fabuleux, cet homme.
Deuxième question, Xavier Mathias. On nous pose beaucoup de questions, évidemment, sur le mail dont on va déguster la fameuse tomate F1. Déjà, on veut savoir rapidement ce que c'est, car on arrive au terme de cette émission. Et de surcroît, est-ce qu'il y a une façon de la reconnaître, un truc pour la reconnaître quand on l'achète, la fameuse F1?
Alors, non, étrangement, F1 n'est pas précisé quand on achète une variété, alors que en graines, c'est toujours précisé. On pourrait, ce serait un petit peu long de rentrer dans le détail, sachant que les F1, c'est un mode de sélection. On parle de lignée pure pour obtenir des F1. C'est un mot que j'aime pas beaucoup.
C'est qui rappelle de mauvais souvenirs.
Oui, voilà, c'est ça. Deux allèles identiques par chromosome pour faire les lignées pures. Donc ça, c'est de la consanguinité. Ça nous fait des variétés qui sont pas stériles, comme j'entends trop souvent dire, mais qui sont pas reproductibles à l'identique. Donc c'est pour ça qu'on est aussi de très très nombreux producteurs à ne pas vouloir de ça. Et imaginez, vous cultivez une variété, vous la trouvez très bonne. Ah bah oui, mais vous dépendez du bon vouloir du semencier. Mais s'il ne la refait pas l'année d'après, vous ne l'avez plus. Hein.
Les producteurs, les maraîchers ne se vantent pas d'utiliser des tomates de variété F1 qui appartiennent au catalogue officiel. Est-ce qu'il y a un truc, encore une fois, pour les reconnaître?
Dans quel circuit trouve-t-on ces F1?
Alors, les F1, c'est
et
ce qu'on
parle pas de Formule 1.
Ouais, dans la grande distribution, essentiellement, c'est ce qui a subi le transport. Et c'est chez les producteurs, effectivement, qui font de la vente rapide en circuit court. Alors après, on a des gens, Terroir d'Avenir, par exemple, qui met un effort énorme pour avoir en logistique, hein, pour avoir très frais des tomates qui ne supportent pas le transport, qui supportent pas le choc en fait.
Donc la leçon à tirer, c'est que c'est compliqué de distinguer sur l'étal de son maraîcher, à part la confiance qui nous lie à son producteur, de distinguer des F1.
Pour moi, l'épaisseur de peau, hein, quand même, hein, des peaux dures et non adhérentes à la chair, en général c'est de la F1.
On se quitte, qu'est-ce qu'on va déguster juste après ce générique, ensemble?
On va se faire un petit velouté de tomates. Alors, j'aime pas le mot gazpacho parce que je mets pas de concombre, moi.
Oui.
Dedans, mais c'est vraiment que de la tomate et un petit peu de céleri. Ça, c'est pareil, c'est les racines italiennes.
Et vous nous en expliquez alors, non pas la recette car on n'a pas le temps. Les auditeurs peuvent la retrouver sur franceinter.fr à la page.
On
va déguster.
Tout, c'est fait.
Et c'est un velouté de tomates. On va le goûter ensemble, justement. Merci beaucoup, Sylvain Sandra. Vous nous rappelez le nom et l'adresse de votre restaurant alors, qui, bonne nouvelle, est ouvert tout l'été.
Tout l'été, oui. Le restaurant est ouvert tout l'été. Et c'est Fleur de Pavé, 5 rue Paul Lelong dans le deuxième.
Oui, très très belle expérience gastronomique à Paris.
Excellent.
Xavier, vous nous signalez un événement autour de la tomate auquel vous participez dans quelques jours.
Oui, le 1er août, Jacques Mercier, avec Nicolas Toutain, entre autres. Nicolas, c'est le chef jardinier de la Bourdaisière, cette fameuse collection de tomates absolument invraisemblable.
C'est ça, et c'est le 1er août.
1er août, oui.
Au château de la Bourdaisière, pas très loin de chez
alors,
vous,
non,
en Indre.
Le 1er août à Frontenay-sur-Dives.
D'accord.
Chez Jacques Mercier.
Chez Jacques Mercier. Merci beaucoup pour ceux qui passent leurs vacances dans le coin. Le week-end prochain, une double ration dont on va déguster. Samedi à 11h, on poursuit notre tour du monde et on redécouvre la cuisine du Nil méditerranéenne, la Sardaigne. Et dimanche à 11h, avec Xavier, Mathias, on prend le melon. Xavier, vous revenez pour nous parler. D'ailleurs, melons et pastèques, ces grosses cucurbitacées qui se sont fait une place de choix dans nos corbeilles à fruits l'été. On se retrouve le week-end prochain, si vous avez encore faim.